Manitou, la nation d'Israël, chapitre 38-39, Bereshit Rabba, sixième et dernière bande.
Vous allez prendre dans votre livre de Bereshit, on m'a posé hier une question, je ne sais pas si la personne est là. Quelqu'un m'a demandé comment on sait qu'elle était enceinte de 3 mois.
Non.
Ah, c'est vous ?
Pourquoi?
Ah, voilà. Alors, nous allons lire le Midrash qui concerne cela et on y revient. Et bien entendu, vous avez compris que sur ce récit, j'ai choisi quelques midrashim qu'on a étudiés. On a étudié un peu, je ne croyais pas que... Enfin, vraiment. Et on a vu simplement l'enseignement du Midrash Rabba. Il y a d'autres corpus de midrashim, et en particulier le Zohar. Si un jour on y arrive, je sens quand même une amélioration de l'hébreu chez vous. Si un jour on y arrive, on fera des midrashim dans le Zohar. Nous restons des niveaux de sens différents qui suivent la même logique. Vous avez remarqué comment on a la même expression dans le verset qui est reprise à des niveaux de signification différents. Par exemple, sur le Tzadekam Imeni que nous avons eu. Alors là, vous allez avoir un autre exemple d'un autre midrash là-dessus. Je vous donne d'abord le verset. Le verset, c'est dans le chapitre 38, c'est le verset 24, c'est ça ? Alors je lis le verset. Vayhi, on est 38-24, Vayhi, Kemishlosh Chodashim. Et il arriva comme à peu près 3 mois. Je ne sais pas si vous allez m'aider à trouver le mot en français. Mishlosh, ça veut dire, comme on dit une douzaine, comme on dit avec 3. Ça n'existe pas le mot. Il y a une neuvaine. Non, en français. Une neuvaine, une triade de mois. Il y a fait. Kemishlosh Chodashim, comme une triade, comme Kemishlosh Chodashim, à peu près 3 mois. Alors le Midrash va étudier pourquoi le texte dit à peu près 3 mois. Vayugad Yehuda, et on a raconté à Juda les mots en disant Zanta Tamar Kalatecha, Tamar ta bru s'est prostituée, Vegam Hine Hara. Et même, voici qu'elle est enceinte. Deux choses. Il aurait suffi d'une. Elle est enceinte, donc elle s'est prostituée. Alors, deux choses différentes. Là, le Midrash nous en fait va dire que, après tout, peut-être qu'elle est enceinte, pas de Judas. D'accord ? Et qu'il y avait place pour Judas de dire, faites une expertise, peut-être c'est pas de moi. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une histoire de ce genre. C'est clair, ce que je dis. Et donc, il y a deux événements qui vont être passés en jugement, que elle s'est prostituée, alors qu'elle était fiancée de principe avec le troisième frère, et donc elle est passible de punition, mais pourquoi brûler ? De là on apprend que c'était la fille d'un Cohen. Vous vous rappelez de ça ? Et deuxièmement, qu'elle est enceinte, et qu'est-ce qu'on va faire de cela ? Alors, parce que si on la met à mort, on va mettre à mort l'enfant. Or, donc on est dans une impasse. Et première indication, pourquoi c'est important de voir que ces 3 mois, à partir de 3 mois, on ne touche pas à l'enfant. Le principe est que c'est au bout de 40 jours qu'on considère que l'embryon existe pour lui-même. Ce qui est un autre sujet, donc première indication. Donc c'est important que le texte dise Mishlosh Kodashim, triade de mois, pour savoir qu'il va y avoir un problème, qu'est-ce qu'on va faire d'elle. Et le Midrash que nous avons étudié, c'est Ke Mishlosh Kodashim. Donc, elle est enceinte d'un acte de prostitution. Alors Judas dit, Otsiwa, Betisaret, menez-la au bûcher, si je veux. Et vous voyez le caractère condensé du récit. Alors, voici quel est le midrash, je vous le lis. Et après nous reviendrons à notre midrash. Sumchus Samar. Et l'enseignement de Sumchus est un cas, il s'agit d'un grand maître de la Gemara dont on ne donne pas de titre, parce qu'il est plus haut que tous les titres. Ah, je dis ça pour ceux qui étaient là hier soir, à propos de Rabbi Akiva. Sumchus, qui est un très grand Tana, a enseigné au nom de Rabbi Meir. Minaïn, Shein, Aroubar, Nikar, Rabbi Meimo. D'où apprenons-nous ? Oui, attendez, installez-moi parce qu'il baisse la tête là. D'où apprenons-nous que l'embryon n'est reconnu dans le sein de sa mère qu'à partir de 3 mois. Meracha, de ce verset, Vaïi, que Mishosh Chodashim, et il arriva au bout de à peu près 3 mois. Rabbi Huna, Beshem Rabbi Yosef, enseigne L'osov d'abar shlosha shlemim. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas de 3 mois complets, ça peut être un peu moins que 3 mois. Et là, et ça se branche un peu à votre question tout à l'heure, le symbolisme précis doit être aussi décrypté. Et là, Roubo Sherishon, la majeure partie du premier mois, et Roubo Sherahaon, la majeure partie du dernier mois, du troisième, Vem Saïchalem, et le mois intermédiaire complet. C'est-à-dire, lorsqu'on dit 3 mois, eh bien, il faut savoir s'il s'agit de 3 mois par rapport aux règles des mois de la mère, ou bien s'il s'agit de 3 mois de constitution de l'embryon à partir de la conception. Alors, la règle qui est donnée ici, c'est 3 mois, c'est pas forcément 3 mois, ça peut être moins. Il suffit de la majorité du premier mois, de la majorité du dernier, mais le mois du milieu est entier. C'est-à-dire, en fin de compte, au moins un mois, plus quelques jours du premier, quelques jours du dernier. La règle de la halakha, il faut dépasser les 40 jours. Donc on considère que le roubar est roubar, mais la question est, comment on l'a diagnostiqué? On peut voir une femme enceinte, même de plus que 3 mois, on ne voit pas qu'elle est enceinte. Et donc, comment il fait? Alors quel est le sens de cette question? C'est ce que Midrash veut poser. Vegam hine hara l'iznonim, et voici même qu'elle est enceinte de prostitution. Là, je l'ai indiqué, il y a deux choses. Elle s'est prostituée, donc un premier procès, et puis elle est enceinte de prostitution, un deuxième procès. Je crois, en schématisant beaucoup, c'est que on va indiquer qu'il y a un moment de perplexité. Est-ce que ça va dans le sens de la lignée messianique cachère qui mènera à Rue des Boaz, ou est-ce que ça va dans le sens de la tentative messianique impure de Lot et ses filles? Est-ce que vous comprenez la vue? Et là, mais la mèche a été met à pachat al-kiressa. Et donc, à la fin de la première analyse, c'est que, même si c'était 3 mois, on ne pouvait pas être sûr qu'elle était enceinte. Donc, c'est qu'on a été sûr qu'elle était enceinte d'une autre manière. Quelle manière? Cela nous apprend qu'elle dansait et elle frappait son ventre en disant « Melachim ani me'oberet, je suis enceinte de roi, goalim ani me'oberet et de sauveur. Je porte en moi des rois et des sauveurs. » Ça veut dire que c'est Tamar elle-même qui a fait savoir « Je suis enceinte de la lignée messianique. » J'ai compris la nuance. Bien. Alors, je voudrais qu'on reprenne cette fois ce Midrash se trouve dans cette édition du Midrash à la page 41. Et vous en avez la fin au début de la page 42. Alors, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'analyser trop. C'est-à-dire, le Midrash met en évidence que les acteurs de cette scène jouent une scène d'une autre nature qu'on pourrait croire à simple lecture. Allez, on aborde de nouveau le Midrash de la page 43. Nous étions arrivés à cette lecture que Tzadeka Mimeni, le Mimeni, a été dit par le roi HaKodesh. Et on a donné deux autres exemples. Un exemple au tribunal de Shmuel et un exemple au tribunal de Shlomo. Et vous allez prendre, comptez avec moi depuis la fin, 1, 2, 3, 4 lignes depuis la fin, à la fin de la quatrième ligne. Je vais étudier rapidement l'exemple qui est donné dans le Beit Din, j'ai dit le Beit Midrash, le Beit Din, le tribunal de Salomon. Il s'agit du fameux jugement de Salomon, vous vous rappelez, que la compétition des deux mères, et en fin de compte, Salomon propose, eh bien, on va couper en deux, et on donnera la moitié à chacune. Vous voyez à quoi ça ressemble. Bien. Et alors, une des deux qui dit, oui, c'est ça qu'il faut faire, et l'autre qui dit, non, donne-leur tout entier. Alors, Salomon dit, ben, c'est elle la mère. C'est clair? Alors, là encore, on va dire que finalement, le jugement a été donné par l'inspiration. Alors, prenez. Bebet dino chez Shlomo, dans le tribunal de Salomon, et c'est Melachim Aleph, ça veut dire le premier livre des rois, Gimel, chapitre 3, verset 27. Kamzaïm. Vous avez la référence. Okay. תנו לה את הילוד החי, והמת אותה נתלו, היא אימו. צל כדי, ne le tuez pas, donnez-le à l'autre. Alors une voix a dit, donnez-le à elle, l'enfant vivant, et mourir, ne le faites pas mourir, elle est sa mère. Miyama, qui a dit, hi imo, qui a dit, elle est sa mère, Rabbi Irmiya, Beshem Rabbi Shmuel, Bar Rabbi Israq, Batkol Tzovachad Vomeret, littéralement Batkol, ça veut dire une fille de la voix, un écho de la voix, comme a dit Michel Prince hier en parlant de Batkol, vous vous rappelez? Donc, ça veut dire une voix d'en haut a dit, a crié et a dit, Hiimo, elle est sa mère. Vadaï, elle est vraiment sa mère. Ça veut dire, lorsque il faut confirmer une évidence qui irait de soi, alors cette confirmation vient d'en haut. Je vous rappelle la scène, il y a deux femmes qui réclament le même enfant, et puis finalement, le jugement du point de vue de la rigueur stricte, c'est partagez-le, cet enfant. Et vous voyez à quoi ça ressemble, hein? À quoi ça ressemble? Vous ne voyez pas?
Partager la terre en ce moment.
Ah, le, vous avez compris. Vous avez compris le livre. Et alors, il y en a une qui va dire, eh bien oui, c'est ça qu'il faut faire, mais si on partage l'enfant, il va mourir. Hein? Ça ne fait rien. Chacun a son droit. L'autre va dire, ah non, on partage pas. Alors donnez-le. Ça, c'est Shalom Arshav. Okay? Alors, c'est vrai. Alors finalement, Dieu dit, ben, c'est elle la mère. Donnez-le lui à elle. Alors on va voir comment ça va marcher. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ça. C'est que nous avons des exemples où, quand il y a une évidence à démontrer, c'est ce que j'essaie d'expliquer, je sais pas si je réussis. J'ai souvent une expression qui me revient, que les professeurs ont parfois un travail difficile à démontrer des évidences. Vous avez compris ce que je veux dire? L'expression qui me revient, c'est traduit de l'hébreu israélien, vous allez comprendre pourquoi, c'est enfoncer une porte ouverte avec un tank. C'est très difficile d'enfoncer une porte ouverte avec un tank. Il faut réussir. Alors, c'est à peu près ça. Alors, tout se passe comme si ce midrash veut nous enseigner que quand il faut démontrer une évidence, finalement, l'accord n'est acquis que s'il y a une voix d'en haut qui dit « Mais oui, c'est, non seulement c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai. » Mais c'était déjà le cas dans notre problème de Judas et Tamar. Tout cela est évident. Mais il faut qu'il y ait une explication, une confirmation par la transcendance pour que ça soit finalement admis. Je vais vous donner un autre exemple plus simple peut-être. C'est, tout le monde sait que c'est le peuple juif qui est le peuple juif. Tout le monde sait, mais tout le monde le nie. Il va falloir qu'un jour une voix d'en haut le dise, mais oui, c'est bien vrai, cette évidence que c'est les juifs qui sont les juifs. Vous voyez, c'est clair? Dans nos dialogues, en tout cas avec le monde chrétien, ça fait 2000 ans qu'on a occupé à ça, à arriver à démontrer quelque chose qui est une évidence élémentaire. C'est pas Rome, c'est Jérusalem, c'est Jérusalem. Et finalement, tout se passe comme si, il faut que ce soit au forceps que ça soit démontré, l'évidence. Voilà, j'ai réussi à vous faire comprendre de quoi il faut. Et alors, c'est de cette manière que le Midrash explique l'intervention de Dieu. Quand ce qui était évident simplement devient évident aveuglément, si je veux dire, c'est qu'il y a intervention de Dieu. Tzadeka mimeni, ce mimeni là, c'est Dieu qui l'a dit quand j'y ai parlé. Voilà pour ce Midrash. Ça va? Alors, on avance sur un Midrash. Prenez le verset, nous dit. Et vous avez la page 44 dans votre. Non, il y a d'autres exemples du même enseignement. Mais ce qui nous importait pour notre sujet, c'est ce qui se passe dans le tribunal de Shem, qui est au temps de l'événement. Alors, on va voir encore un midrash. C'est, je lis le verset. Voilà. Alors, nous allons étudier le verset 26. Alors, nous allons maintenant voir un midrash sur le verset 27. Mais je vais lire les deux versets pour que nous voyons comment se fait la fin de l'événement. Verset 26. Vayaker Yehuda, et Judas reconnut, Vayomere dit, Tzadekamimeni. Alors on a appris, Tzadekamimeni, ça veut dire premièrement, elle est plus juste que moi, deuxièmement, c'est pas moi qu'elle est Tzadekette, mais c'est Dieu qui l'a dit. Bon. Qui, Alken, car c'est à cause de cela, l'onnetatiha l'eshala béni, que je ne l'ai pas donné, Ashla, mon fils. Velo yasafro bedarta, vous avez indiqué brièvement qu'il y a deux lectures, et d'autres exemples d'ailleurs, donc un de ces exemples qui est important. Loyasaf, ça veut dire il n'a pas ajouté de la connaître, et loyasaf, ça veut dire il n'a pas cessé de la connaître. C'est-à-dire, depuis que ceci s'est dévoilé, Judas et Tamar sont liés pour l'engendrement du Mashiach. Et l'autre exemple, c'est lorsque la révélation du Sinaï s'est faite, il y a un verset qui dit, vers Kol Loyasaf. Et la voix, Loyasaf, et ça peut être lu, ne s'est pas répété ou n'a jamais cessé d'être entendu. Oui, un peu. Et verset 27, Vayhi Be'eklipta. Et il arriva au moment de son enfantement, Ve'ine Teorim Ve'vitna, voici qu'il y avait des jumeaux en son sein. Alors, ce que je veux mettre en évidence, c'est que dès que Judas a reconnu en disant Tzadekamimeni, a dévoilé la signification de l'événement, eh bien, la Torah n'a plus aucune péripétie, et immédiatement après, et lorsqu'elle a enfanté, il y a eu des jumeaux en son sein. Alors, la question qui va être étudiée dans le Midrash, vous allez voir ce que fort, c'est, on est renvoyé déjà à une histoire connue. C'est quoi? Premièrement, les jumeaux du premier homme, Caïn et Abel, et deuxièmement, surtout, les jumeaux de Jacob et Esaü. Alors, est-ce qu'il s'agit que c'est une issue, une fin heureuse de réussite, ou est-ce que c'est une impasse de recommencement d'une histoire de deux jumeaux? Avec la Torah, c'est ce qu'elle veut nous raconter. Alors regardez dans le Midrash comment c'est étudié. Vous êtes à la page donc. Oui, à la page 44. Veine Teomim Levitna. Teomim Malé. Le mot de Teomim est écrit Malé. Qu'est-ce que ça veut dire? Plein de toutes ses lettres. Il est écrit avec Aleph et Vav. Alors que précisément, le mot de Théomim pour Jacob et Esaü est écrit Tomim, sans le Aleph. Je vais vous dire tout de suite le verset. C'est dans la paracha de Toldot. Une minute, je vais vous dire le verset. C'est au chapitre 25, mais je vais donner le verset. Voilà, vous allez prendre le verset 24 du chapitre 25. Vaimleu Yamea la Ledet. Il s'agit de Rivka. Et furent remplis ses jours pour enfanter. Ça veut dire qu'elle a accouché à terme. Vehine Tomin Lebitna. Et voici des jumeaux en son sein. Mais le mot là est écrit sans le halal. Alors que dans notre verset à nous, Veine Teomim Vitna. Et voici des jumeaux en son sein. Alors, à première lecture, on perçoit que l'enfantement des deux jumeaux de Rivka, Jacob et Esaü, c'est une impasse. En fait, c'est pas une réussite. Il manque la l'œuf. Tandis qu'ici, la l'œuf est indiqué, le mot est écrit malé, plein de toutes ses lettres, c'est une réussite. Et que dit le Midrash? Théomim, Malé, Kan, Shnehem, Tzadikim. Les deux sont les Tzadikim. Alors, vous voyez quelle est cette annonce de la réussite dans l'enfantement de Tamar, les deux jumeaux qu'elle a, les deux sont des Tzadikim, le temps messianique peut commencer. Alors que pour Rivka, c'était ce qu'on cherchait. Mais c'était deux jumeaux dans l'air et Tzadik, l'autre et Rachar. Alors, c'est Théomim, Balef et Hasser. Il manque l'unité, si vous voulez. Voilà donc une indication qui est reprise par le Midrash, Ulhalan Ktiv, alors qu'à propos de Rivka, vous avez la référence, Tomim, sans le Aleph, Echad Tzadik, Echad Racha. L'un est Tzadik et l'autre Racha. Alors nous avons là, finalement, une sorte de préfiguration de la fin des Toledot. Les Toledot ont commencé au premier homme, en fin de compte, arrive à Abraham, il y a tout ce récit d'Abraham jusqu'à Jacob et Israël, avec cette étape très importante. L'enfantement de Rivka, on attend Israël. Et Israël, c'est quand les deux jumeaux sont des Tzadikim. Mais là-bas, c'est une impasse. C'est par Judas que c'est annoncé que l'enfantement des Avot mènera au Melech HaMashiach. Et c'est Peret et Zara, qui sont les deux fils de Judas, qui ensemble vont constituer la lignée messianique de la tribu de Judas. C'est l'indication à laquelle il fallait arriver pour indiquer la réussite à travers la lignée de Judas. Alors que l'histoire de Joseph va être reprise au chapitre 39, et ça commence cette longue et pénible histoire de à travers les exils, et en fin de compte la sortie d'Égypte, en fin de compte la révélation de la Torah, l'effort de faire à l'échelle d'une société cette union entre la lignée de Joseph et de Judas, mais pendant ce temps la lignée de Judas est déjà prête. Vous voyez à peu près comment se met en place cette histoire. Pour notre problème, c'est que, ça je vous propose, si vous voulez, on reprendra après, dans un autre séminaire, c'est les deux messianismes, celui de Judas et celui de Joseph, de notre temps. Mais je pense qu'on a suffisamment appris à travers ces études pour avoir une idée du cadre dans lequel cela s'inscrit. Avant d'y arriver, je veux vous indiquer, le prochain séminaire va reprendre le problème de l'exil d'Israël chez Ishmaël et l'exil d'Israël chez Esav. Nous aurons en conférence du soir, lundi, mardi, quatre conférences. Je ferai la séance d'introduction sur les textes bibliques, talmudiques et midrashiques. Ensuite, nous aurons la conférence d'un historien. Comment s'est constituée l'identité ashkénaze et l'identité sfarade. Nous aurons la conférence d'un psychologue sur le mythe de l'identité sfarade et le mythe de l'identité ashkénaze. Je vous explique très rapidement. Il y a en réalité 1000 façons d'être ashkénaze et 1000 façons d'être sfarade. Et cette simplification mythique, l'ashkénaze et sfarade, sera étudiée. Ensuite, nous aurons en clôture la conférence d'un sociologue sur le problème suivant, probablement ce sera Trigano, si ça arrive à se mettre en place, sur le problème suivant, comment comprendre l'identité sfarade en pays ashkénaze, ce qui est le cas aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué, Trigano est un chercheur qui est surtout sociologue, mais aussi philosophe et au courant des textes. Alors, il est possible que ce sujet soit bien posé. On est un peu précurseur là-dessus. C'est-à-dire, il s'agit du profil d'identité de la communauté juive en France pour l'avenir. Le thème de départ serait que, moi j'y contribuerais un peu en contrepoint d'un point de vue israélien, si vous voulez, c'est que tous les sfaradines qui ne sont pas en Israël sont dans des pays ashkénazes.
Vous connaissez les deux, les juifs du Midi qui sont là.
C'est vrai, mais l'encadrement de ces communautés sfarades du Midi est fait par les Ashkenazis, même dans le Midi. Il y a le même problème sociologique.
Les Kéferas, ils la ramènent tellement.
Non, je veux dire, par exemple, je prends un problème comme Marseille. On arrête l'enregistrement. Non, ça c'est le micro, mais l'enregistrement marche peut-être. Ah non, c'est vrai. Pourquoi un problème comme Marseille?
J'en ai marre de ce problème, parce que je suis de Salonique, et c'est nié complètement comme Sépharade. Je suis peut-être la seule vraie Sépharade. Chez mes parents, parlaient du vidéo espagnol.
Et c'est le problème Sépharade, d'ailleurs.
Mais c'est le problème même en Israël.
Oui, mais c'est le problème de Marseille, je veux dire. Okay. Mais justement, c'est votre problème qu'on va poser. C'est votre problème qu'on va poser.
Non, mais il y en a marre. Il y a des juifs d'Afrique du Nord qui sont des Sépharades maintenant.
Non, non, les Sépharades sont des juifs espagnols.
Mais oui, mais
oui. Non, justement, ça va être l'objet de l'étude historique. Hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, il y en a d'autres dans la salle. Et les Juifs d'Afrique du Nord sont des Juifs arabes et qui ont adopté le rite sfarade espagnol. Il y a d'ailleurs quelques communautés de Juifs espagnols en Afrique du Nord. C'est vrai aussi. Vous avez tout le Maroc espagnol. Et en Algérie et en Tunisie, il y a des communautés d'originaires de Juifs espagnols. Et alors, justement, c'est une des questions qui va être étudiée. C'est que c'est un emploi abusif du mot sfarade. Mais, ce que j'ai choisi comme étude de texte, ce ne sera pas du Midrash, mais c'est un texte d'un grand kabbaliste espagnol d'ailleurs, sur cette question. C'est le Shara Leora, je vous l'indique. N'ayez pas peur, le texte est plus facile que le Midrash. Et on aura ça en étude de texte. Alors, nous reprendrons peut-être le problème du messianisme dans les séminaires suivants.
Le problème se pose même en Israël, quand on dit c'est érable une fois. Ce sont des gens, les Marocains d'Afrique du Nord, qui sont
restés. Attendez, alors, en Israël.
Parce que des boulots, il y en a des quantités qui sont avocats, qui sont faits, dirigent la distance, mais non, les séférales, c'est les inférieurs.
Non. Mais non, en Israël, il y a une autre formulation. Il y a Sepharadim ve'edot ha-Mizrach. Il y a les Sepharadim et les communautés orientales, qui ont le même rythme, mais qui sont différents points de vue ethniques. Et d'ailleurs, par exemple, à Jérusalem, il y a la communauté des Sepharadim espagnols, Tarechov Habatzelet, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un rite salonicien, et à d'autre part, les communautés des Nord-Africains ou des Orientaux, qui sont différents comme rite. Donc en Israël, c'est plus clair au point de vue de la formulation. Bon, ce problème sera étudié en France d'ailleurs, surtout pas en Israël. Et je vais vous le dire très rapidement. Le mot de Sfarad, dans la Bible, ne désigne pas du tout l'Espagne. C'est plus tard que cela a été utilisé. Sfarad désignait une petite localité du Moyen-Orient qui entourait le pays d'Israël dans le temps biblique, et qui probablement a comme nom actuel Sarafand. Et il y a un petit village au Liban qui s'appelle Sarafand, mais c'est probablement pas celui-là. Pardon ? Sarafand, en Anatolie. Mais il y a un Sarafand Attendez, je vous explique ça brièvement. Dans l'hébreu biblique, l'Espagne, ça se dit Tarchish, et pas Sfarad. Et le mot de Espagne est dérivé du phénicien. Les Phéniciens ont colonisé la presqu'île ibérique, si vous voulez, si on l'appelle comme ça, et les Phéniciens l'appelaient l'île des lapins, Ishfania, l'île des lapins, Shafan en hébreu et Ishfania en phénicien. Alors, Ishfania, le mot phénicien qui a donné le mot Espagne. Mais les habitants de la presqu'île ibérique s'appelaient les Ibères, et non pas les Espagnols. Les Espagnols, c'est notre nom. Et alors, il y a une étude d'un auteur lituanien, Miloš, je ne sais pas si vous avez entendu Miloš, mais peut-être que David Mendelssohn fait une communication là-dessus, qui a étudié une certaine identité entre les Ibères et les Hébreux. Je ne sais pas si c'est légendaire ou mythique, mais enfin, c'est une étude qui existe. Et alors, en tout cas, lorsqu'il y a eu l'exil, le premier exil, les premiers Hébreux arrivés dans la péninsule ibérique, ont fait un diagnostic d'identité anthropologique en disant « ici c'est Sfarad ». Ils ont reconnu un diagnostic de profil humain et du paysage, de la même manière que lorsqu'ils sont arrivés en Allemagne, ils ont dit « ici c'est Ashkenaz ». Alors que Ashkenaz, dans la Bible, ne désigne pas du tout l'Allemagne, elle désigne un peuple qui est probablement les Pélages. C'est une autre histoire. De la même manière que lorsqu'ils sont arrivés en France, ils ont dit « ici c'est Tsarfat ». Alors que Tsarfat est aussi une ville du Moyen-Orient au temps des prophètes. Vous voyez, il y a eu un processus d'identification dans la projection de l'exil sur l'identité des peuples qui entouraient les Hébreux. Vous comprenez ce que je veux dire?
Dans le sud du Maroc, il y a ça aussi.
Par exemple,
toutes les tribus berbères autour des villes, qui leur avaient donné le nom de tribus.
Voilà, ben, je ne connaissais pas, mais c'est quelque chose de très
amoureux.
Ah bon, ben, vous voyez, c'est quelque chose de très amoureux. Alors ce qui fait que, depuis très très longtemps, on s'est habitué à appeler la France Tsarfat, à appeler l'Espagne Sfarad, mais ou à appeler les pays Ashkenaz, Ashkenaz. Mais il est bien évident que les Ashkenazines originels, c'est les Allemands. Ça désignait la Lotharingie, le mot de Ashkenaz. Dans le Talmud. La Lotharingie, oui. C'était Arzot Ashkenaz, c'est la Lotharingie. C'est en ce temps-là qu'on les a identifiés comme ça. L'Allemagne en général, ça se dit Germania. Germania, dans le langage du Midrash. Pas Germania, mais Germania. Et c'est Togarma, dans la Bible. Et j'ai trouvé dans un commentaire de Abravanel sur le livre d'Isaïe, qu'il appelle la France Gallia, et pas du tout Tsarfat, et qu'il la désigne comme une province de l'Angleterre. Ça, c'est l'Europe de 92. Probablement. C'était comme ça qu'on l'entendait de son temps. Okay. tu vas le contraire d'avoir un aide sur l'Isaïe. Et en fait, il y a eu un judaïsme français qui n'avait rien à voir ni avec les Sfaradines ni les Ashkenazines. C'était la communauté du Marzo de Vitry. Alors attendez, la Hilloua, c'était à Vitry. On aura des correspondances. Rachitique.
Est-ce que c'est le Vitry c'est Paris,
je sais pas.
Ou le Vitry en Champagne?
Oui, c'est ça. C'est peut-être le Vitry en Champagne. C'est sûrement le Vitry en Champagne. Parce que l'école de Rachid qui avait comme rituel le Marzour de Vitry, avec un Shulchan Aruch français.
Ça pourrait être plus
c'est plutôt Champagne. Vitry en Champagne. Et ce rite a disparu. Mais c'est un rite plus proche des Ashkenazim que des Sfaradim, mais qui était le rite français. Et alors que...